Alors, Nathan est un petit garçon hyperactif. Ah, punaise. Qu'est-ce qui se passe? Alors, excusez-moi, j'ai perdu mon. Il faut que j'aille. Et cet après-midi-là, il avait prétendu être une fusée qui allait très vite. Et malgré les recommandations de sa maman de faire attention, Nathan courait à toute vitesse dans toutes les pièces de la maison, allant d'un endroit à un autre. Et frôlant le mobilier, évitant les obstacles. Et ce qui devait arriver, arriva. Bam! Notre Nathan s'est pris une porte. Alors il est retourné bien vite voir sa maman en pleurant parce qu'il s'était fait mal. Et sa maman lui a dit, mais Nathan, à quoi est-ce que tu t'attendais en courant partout de cette manière? Tu sais bien que t'es pas une fusée. Et Nathan n'avait pas prêté attention ni aux avertissements de maman, ni pris la mesure de qui il était. Alors la porte l'a rappelé à l'ordre brutalement. Cette petite histoire, relatée par Ravi Zacharias, que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, illustre le fait que nous sommes aussi soumis à certaines lois édictées par notre Créateur. Et ne pas en tenir compte, eh bien, nous expose tout simplement à des déconvenues. Mais de la même façon que la maman s'est adressée à Nathan, notre Dieu parle encore aujourd'hui. Et ce sera le titre de notre message. Notre Dieu parle encore aujourd'hui. Et j'aimerais, pour introduire mon propos aussi, lire avec vous dans Genèse chapitre 3, les 10 premiers versets qui nous racontent la chute. Je lirai dans la nouvelle édition de Genèse 79. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils reconnurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu? Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, par ce texte, nous voyons que dès le début, le début de l'humanité s'ouvre rapidement avec ce que nous appelons la chute, c'est-à-dire la désobéissance du premier couple humain, que je ne vais pas prendre le temps d'exposer ici. Ce n'est pas mon propos. Mais j'aimerais juste souligner deux choses en relation avec ce récit de la chute. La première, c'est que le commandement de Dieu, donc de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'était pas une monstrueuse privation, comme le suggère le serpent verset 1 sur le ton de la surprise indignée. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Mais c'était une protection pour le premier couple humain et toute leur descendance. La deuxième chose que je ferai remarquer, c'est que l'autodétermination et l'indépendance à laquelle l'homme et la femme ont maintenant accès va engendrer beaucoup de malheurs, parce que la gravité de l'offense est à la hauteur de celui à qui ils ont désobéi, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et l'histoire de l'humanité ne sera désormais qu'une succession de portes, entre guillemets, et de murs, et d'impasses révélant la nudité, entre guillemets, et le besoin criant de l'homme de revenir à son Créateur. Alors Paul nous dira dans l'Épître aux Romains que par la seule offense d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes. Il dit ça dans Romains 5, 18. Parce qu'il y a simplement une solidarité, une dépendance inéluctable au sein de la race humaine avec le péché du premier homme. D'ailleurs, si vous êtes parent, vous transmettez, que vous le vouliez ou non, votre ADN à vos enfants. Cette solidarité biologique vous lie avec vos enfants et nous lie à nos semblables. Mais l'apôtre Paul, en faisant référence à Genèse 3, 17, va poursuivre en expliquant que le péché a impacté également la création, qui a été soumise à la vanité ou à l'inconsistance, Romains 8, 20. Et il ajoutera au verset 22 que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Mes amis, à quoi devons-nous nous attendre dans un contexte où le péché est entré dans le monde, a pénétré la race humaine et chamboulé la création? À quoi devons-nous nous attendre dans un monde qui a rejeté Dieu et mis à mort le Seigneur Jésus? Michel Houellebecq, écrivain essayiste que vous connaissez sans doute, dira sur France Inter en conclusion de son exposé sur la crise sanitaire actuelle: nous ne nous réveillerons pas après le confinement dans un nouveau monde. Ce sera le même, en un peu pire. Le communiqué des évêques de France de fin mars, sans nommer le péché, dit ceci: depuis bien des années déjà, notre humanité a l'intuition qu'elle doit changer radicalement sa manière de vivre. Osons le dire, l'égoïsme, l'individualisme, la recherche du profit, le consumérisme outrancier mettent à mal notre solidarité. Fin de citation. Mais c'est l'Écriture qui nous offre la bonne grille de lecture de la situation de notre monde, en mettant des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X, et en disant dans Ésaïe 24-20, « La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. » Mais c'est l'Écriture qui révèle aussi la bonté de Dieu par ce que les théologiens appellent la grâce commune, dont nous sommes tous bénéficiaires. Encore maintenant, croyant ou non. Et j'en parlerai un petit peu plus loin. Alors, cette anormalité du « tout va bien », entre guillemets, temporaire, dans un monde détraqué, déboussolé et une création souffrante, témoigne que notre Dieu restreint encore le mal sur notre terre. Au travers de cette pandémie due au Covid-19, tout se retrouve soudainement chamboulé et notre monde bascule dans l'incertitude. Même avec le déconfinement en vue, nous ne savons pas comment la situation va évoluer et si ce virus va repartir ou pas. Au sein de ce contexte, notre Dieu ne pose-t-il pas à l'homme toujours une question déjà posée à Adam et Ève? Où es-tu? Genèse 3:9. Et j'aimerais partager avec vous trois interpellations générales pour tous et quatre encouragements par lesquels Dieu nous parle, plus particulièrement nous, chrétiens, au sein de cette crise que nous connaissons. D'abord, les interpellations. La première. De la même façon que Nathan n'était pas une fusée, nous ne sommes pas Dieu, c'est évident, contrairement au mensonge du serpent dans le jardin d'Éden. Nous ne sommes que des créatures qui avons besoin de la grâce, de la faveur de notre Créateur, parce que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, dira Paul dans Actes chapitre 17, verset 28. À l'heure de la science triomphante, pour ne pas dire arrogante, par la PMA, la GPA, l'homme augmenté et le transhumanisme, le rappel à l'ordre est plutôt brutal, alors que les nations enterrent leurs morts et peinent à trouver un remède rapide et efficace contre ce virus. Ironie de l'histoire, les hommes en sont réduits à se confiner, à se cacher chez eux pour se protéger. Plus de 4 milliards d'individus ont été confinés du jamais vu. Est-ce que ce ne serait pas un signe que Dieu nous donne, que le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, comme le dira Paul dans 1 Corinthiens 1, 21. Alors, cette impuissance temporaire de la science et des gouvernements de notre planète met en lumière simplement le besoin criant de véritable sagesse. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre que l'homme n'est ni maître du temps, ni des événements, ni des circonstances, ni de l'histoire, ni de la vie, ni de la mort. L'homme n'est maître de rien. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, dira le psalmiste au psaume 115, verset 3. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Zacharie chapitre 1, verset 3. C'est là, certainement, une interpellation de la part aussi de notre Dieu. Deuxième interpellation. Dieu ouvre à l'homme un livre d'images pour l'aider à comprendre une réalité spirituelle fondamentale. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais Nicolas Hulot, en début de crise, évoquait sur les ondes que la nature nous envoie un message urgent dans ce monde où le mal progresse plus vite que le bien. Mais c'est la Bible qui met un nom sur ce mal, cité par Nicolas Hulot, dont nos contemporains se moquent assez facilement, le péché. Alors Dieu permet justement que ce virus du Covid-19 soit une image assez parlante de ce qu'est le péché et des dégâts qu'il opère. On pourrait trouver plusieurs parallèles, mais j'aimerais juste en mentionner juste trois, même s'ils restent imparfaits. Le premier, quand même un virus qui est invisible à l'œil nu, discret, mais qui part d'une seule personne infectée et qui se répand sur l'humanité. C'est le propos que développera Paul dans Romains à propos du péché. Deuxièmement, ce virus est extrêmement contagieux, de la même façon que le péché nous enveloppe si facilement, Hébreux 12.1, et se propage à une vitesse incroyable. Un peu de levain fait lever toute la pâte, écrira Paul aux Corinthiens, chapitre 5, en relation avec le péché. Et puis, troisième parallèle que je vois, c'est que alors que Dieu donne à tous la respiration, la vie et toute chose, nous dit Paul dans Acte 17, ce coronavirus crée justement des insuffisances respiratoires et finalement, dans les cas les plus graves, provoque la mort. De la même façon, le péché freine, empêche notre respiration spirituelle avec notre Créateur et donc notre relation avec lui. Oui, le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6:23. Notre Dieu interpelle notre humanité sur la nécessité de se protéger, certainement d'une infection virale encore plus mortelle que celle de ce Covid-19, celle du péché. Et puis, troisième interpellation, les valeurs actuelles qui sous-tendent notre société ne sont pas les bonnes. Le consumérisme mondialisé et la course perpétuelle à la croissance vantée par nos dirigeants n'a pas été la bonne réponse en cette période de crise sanitaire. Je lisais ce que disait le cardinal guinéen Robert Sarra, et qui a écrit ceci: nous avons la démonstration qu'une société ne peut être fondée uniquement sur les liens économiques. Fin de citation. Si les bienfaits de l'Europe et de la mondialisation ont été vantés ces dernières décennies, la crise actuelle a mis en évidence le rôle de la solidarité nationale et le rôle incontournable de la famille, tellement décrié ces derniers temps. Il y a quelques mois seulement, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans notre pays, les débats sur l'euthanasie allaient bon train. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement reconnaissants et heureux de constater que les plus jeunes prennent soin des anciens. La valeur de l'assistance transgénérationnelle est remise à l'honneur et on n'hésite pas à applaudir le personnel soignant tous les jours à 20h. Pour une fois, l'argent n'a pas été la réponse au drame que nous vivions, parce que riches et pauvres se sont retrouvés ensemble, compagnons d'infortune. Et par cette situation, Dieu pousse les hommes à remettre en question simplement leur échelle de valeur et à revoir les fondamentaux de la vie. Mes amis, prions pour que ces messages soient simples, soient compris par beaucoup et portent du fruit. Mais Dieu n'interpelle pas seulement les hommes, nous y compris, mais nous aussi croyants en nous offrant des encouragements. Et j'aimerais vous en partager quatre. Le premier encouragement, c'est que Dieu est présent avec son peuple dans l'épreuve, même si plusieurs croyants sont décédés à cause de ce virus. Le président du CNEF, Christian Blanc, a été extrêmement malade, atteint du Covid-19, a assisté à sa première réunion de bureau jeudi dernier par visioconférence, après 2 mois d'absence, dont 3 semaines dans le coma artificiel. Voici son témoignage. C'est l'action de grâce et la reconnaissance qui m'habitent. Je dois tout à la grâce de Dieu et aux prières. Ce sont les textes de l'Écriture qui m'ont soutenu dans les moments difficiles. Merci, merci à tous ceux qui ont prié pour moi. Fin de citation. Je constate que majoritairement, ces temps difficiles ont été utilisés par Dieu pour développer la foi de son peuple. La prière est redevenue prioritaire. Les temps de confinement ont été propices pour donner à Dieu plus de temps. Quelque part, Dieu a attiré son peuple au désert pour parler à son cœur. Osée 2, 16. Par tous nos projets stoppés net, nous apprenons à nouveau le béaba de la dépendance de notre Dieu. Vivre un jour à la fois, vivre par la foi. Et puis on redécouvre la valeur, oui, des relations fraternelles, même si c'est à distance. Les rencontres virtuelles se sont multipliées et plus de personnes y participent. Deuxième encouragement. Dieu ouvre des portes inédites pour le témoignage. Non seulement l'Église en dehors de ses murs est toujours en vie, en s'adaptant à la situation de confinement, mais beaucoup d'Églises, comme vous, ont mis un culte en ligne et ont vu le nombre de connexions se multiplier par 2, 5, voire par 10, et peut-être même plus pour des grosses églises. Dans cette période d'incertitude, beaucoup de personnes qui n'auraient jamais osé franchir le seuil d'un bâtiment religieux n'hésitent pas à visiter une église virtuelle et entendre le message de l'Évangile. La porte ouverte de Mulhouse, pense que vous avez entendu parler, s'est retrouvée sous un feu médiatique sans précédent. Mais le nombre de vues des messages du pasteur Samuel Peterkind, qui rendent gloire à Dieu, je le crois, se chiffre en plusieurs dizaines de milliers. Peut-être que vous entendez en arrière-fond la musique, c'est Sam, ne vous inquiétez pas qu'il joue. Saviez-vous, mes amis, que Thierry Le Gall a, durant cette période, des entretiens pastoraux de grande qualité avec plusieurs membres du Sénat et des parlementaires qui le contactent? Et ce n'est pas pour rien si dans les discours des hommes politiques, des mots tels que « solidarité, bienveillance, aide, unité, humanité » reviennent en boucle, et même le mot « humilité » prononcé à plusieurs reprises par notre président dans un de ses discours. Plusieurs de nos politiques réalisent à nouveau que les valeurs morales et éthiques, et donc chrétiennes, sont des valeurs sûres et pertinentes pour faire face le mieux possible à une situation de crise. Notre gouvernement n'a pas demandé à notre nation de prier, contrairement à d'autres pays. Mais Dieu est à l'œuvre de la manière dont nous ne l'aurions pas pensé, parce que notre Dieu veut toujours que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mes amis, Dieu est à l'œuvre dans cette période difficile. Troisième encouragement. Les organisations chrétiennes se recentrent sur leur appel et recherche l'unité avec des œuvres partenaires. Je vis actuellement au rythme des rencontres en vidéoconférence avec la CIM, qui est en cellule de crise, et du CNEF confronté à une forte demande de communication et de conseil. Dans les deux cas, je vois comment le Seigneur nous recentre ensemble sur ce qui est prioritaire. La dépendance de Dieu dans tout ce que nous faisons pour l'avancée du témoignage de Jésus-Christ. Dans notre milieu évangélique, les petites œuvres ont souvent du mal à travailler avec d'autres. Et le problème, c'est qu'elles dépensent beaucoup d'énergie pour réinventer quelque chose qui existe, mais de manière isolée. Mais la situation actuelle encourage le partenariat avec d'autres œuvres plutôt que l'isolement, l'éclatement et la dispersion. Le témoignage n'en est que renforcé. C'est en tout cas ce que nous assistons à la CIM avec la demande d'œuvres pour que nous les aidions à travailler. Quatrième encouragement, la grâce commune est sous nos yeux. Sachons le voir et sachons en être reconnaissants. Alors, la grâce commune, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la manifestation généreuse des bienfaits de Dieu envers tous les hommes. Comme par exemple, notre Dieu fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes, dira le Seigneur dans le serment sur la montagne dans Matthieu 5. La grâce commune se voit dans notre contexte de crise sanitaire par bien des choses, mais je voudrais juste en mentionner quatre qui m'ont personnellement frappé. D'abord, Dieu a donné au monde un personnel hospitalier qualifié et dévoué pour soigner les malades. C'est un cadeau de Dieu à tous les hommes, sans exception. Rien que dans l'hôpital le plus proche de chez nous, 18 médecins se sont portés volontaires pour se relayer jour et nuit et pour apporter gratuitement leur expertise, leurs compétences au service de leurs concitoyens. Ce n'est pas pour rien, comme je l'ai déjà mentionné, que tous les soirs à 20h, beaucoup applaudissent le personnel hospitalier. Quelque part, je crois que nous avons besoin de retrouver notre solidarité avec nos semblables et de manière ultime le contact avec Dieu et le lien d'amour avec notre prochain. Deuxième manifestation de la grâce commune. Les grandes fortunes se sont mobilisées pour le bien de tous. Je lis que LVMH, le numéro 1 mondial du luxe, a offert 10 millions de masques en France d'une valeur de 5 millions d'euros et mobilise ses sites pour la fabrication de gel hydroalcoolique. Je lis que la maison mère Louis Vuitton, Christian Dior, Guerlain, a financé intégralement la première livraison de tous ces masques. Je lis que Pernod Ricard a fait un don de 70 000 litres d'alcool, pas pour boire, mais pour fabriquer du gel désinfectant. Oh, vous pourriez me dire, bah oui, mais ça, c'est quand même pas grand-chose. Ces grands patrons, ils en ont plein les poches. Non, mes amis, c'est quand même un élan de générosité qui est bel et bien là et qui manifeste que ces grands patrons ont le désir de venir en aide à leurs semblables. Et puis, je vois aussi la grâce commune au travers de la technologie qui est véhiculée ici, qui est utilisée pour véhiculer le bien. Nous croyons, nous en sommes bénéficiaires encore maintenant. Et ça permet d'avoir des rencontres virtuelles et de ne pas rester isolé. Et finalement, j'aimerais mentionner que la grâce commune existe aussi par le fait que nous sommes témoins que l'épreuve dure un temps, mais pas tout le temps. Nous parlons de déconfinement, mais il faut savoir que la courbe de développement d'un virus n'est pas une exponentielle à l'infini, parce que ça détruirait tout simplement la race humaine, mais c'est une courbe en cloche qui atteint un pic et qui redescend. Je crois que ça aussi, ça vient de Dieu. Conclusion. Cette situation de crise sanitaire a clairement exposé la vanité et la vulnérabilité de notre société sans Dieu. Il est clair que tous n'en tireront pas les conséquences et il y aura toujours des détracteurs de l'Évangile. Mais néanmoins, notre Dieu parle encore aujourd'hui et utilise cette situation pour que beaucoup soient réceptifs au message de l'Évangile. Alors que notre Dieu parle, mes amis, profitons-en pour être plus que jamais à son écoute. Et soyons comme Samuel qui dira « Parle, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3:10. Fortifions nos cœurs par la patience et par la consolation que donnent les Écritures pour que nous possédions l'espérance. Romains 15:4. Et déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, parce qu'il a promis de prendre soin de nous. 1 Pierre 5:7. Alors que notre Dieu parle, soyons des relais et des témoins de sa grâce. Là où Dieu nous place. Cela ne veut pas dire que nous-mêmes ne serons pas atteints, cela ne veut pas dire que nous ne serons pas malades et que nous serons épargnés. Certains ne l'ont pas été, mais nous avons une espérance, mes amis. Le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Psaume 112, verset 7. Et puis si notre temps est terminé sur la terre, eh bien, sachons-le, c'est pour être pour toujours avec le Seigneur. J'aimerais terminer par ce verset. Car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Que Dieu vous bénisse. Et je vous propose juste pour terminer que nous prions. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur, de ce que tu es sur ton trône et de ce que tu règnes, et de ce que tu parles encore au travers de toutes les circonstances que nous connaissons. Nous prions pour ne pas nous décourager. Nous prions pour être sel et lumière là où tu nous places. Manifester auprès de nos semblables que nous avons une espérance et que eux aussi peuvent accéder à cette espérance. Continue, notre Dieu, à parler à nos contemporains. Inclinés vers la crainte de l'Éternel. Sauve encore beaucoup de personnes. Seigneur, glorifie-toi. C'est notre prière. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.